Merci à Arbre Paysage d'OTAN. On va continuer et terminer en fait ce tour de table avec notre dernier intervenant. On a vu une grosse structure, les zoos, on a vu le côté associatif et maintenant on va voir le côté un peu plus recherche scientifique, le côté un peu étude avec Julien Carré. Julien Carré qui est physicien, qui est enseignant aussi dans une école d'ingénieurs à l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, spécialisé surtout sur les énergies et l'histoire de l'énergie. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage de plus de 270 pages à ce sujet qu'on peut trouver sur Internet gratuitement et qui s'intéresse aussi à toute la partie industrialisation avec ce qu'on appelle le low-tech. Donc toute la partie comment produire et rester dans l'industrie sans faire de dégâts au niveau de la nature. Il fait partie également de l'atelier Atécopole, c'est-à-dire un atelier d'écologie politique qui rassemble plus de 180 chercheurs toutes académies confondues en fait, et qui réfléchissent. C'est un peu la suite de Grothendieck, ça. Est-ce que la science doit continuer à détruire le monde ou pas? Et il a également fait partie du collectif du Labo 1.5, un collectif qui regroupe les membres du monde académique, donc toutes disciplines confondues, et qui partage l'objectif de mieux comprendre donc, la diminution de l'impact de la recherche sur notre environnement.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je vois que vous avez fait des recherches sur Google. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup. Je rajouterais juste avant que je suis également nouveau membre, nouvel habitant de Carbone. Après des années à Toulouse, je suis depuis un an à Carbone. Ce qui ne manque pas de faire rire mes amis, ma famille, compte tenu de mon engagement face au réchauffement climatique. Puisque c'est dans le sujet du jour, j'ai planté une centaine d'arbres en bord de Garonne sur le terrain sur lequel j'habite avec ma famille. J'avais pas prévu de le faire, mais ce matin en me réveillant, juste en sortant du sommeil, je me suis dit tiens, j'ai envie de vous parler une brève intervention sur les rapports entre science et politique, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Et que je fais partie d'un membre qui s'appelle d'un collectif qui s'appelle l'Atelier d'écologie politique. Donc, je voudrais juste dire quelques mots là-dessus. J'admire votre engagement auprès des territoires et bien entendu probablement que certains d'entre vous ont un métier et vous n'avez pas le temps de lire les rapports du GIEC, de vous plancher dans la littérature scientifique. Nous, on est un collectif de 180 scientifiques, on passe beaucoup de notre temps, et c'est notre métier, à lire toute cette littérature, à nous renseigner sur tout ça, qui évolue beaucoup. On a besoin de gens spécialistes de l'énergie, mais aussi d'agronomes, de gens de l'INRA, etc., etc. Et tout ça prend énormément de temps et est extrêmement compliqué. Et ça pose la question de comment toute cette science va pouvoir être transmise et utilisée par des gens comme vous qui vont prendre les décisions. Et fort est de constater que si on se penche sur l'histoire du passé, finalement, les alertes des scientifiques n'ont pas été prises en compte. Je vous rappelle, le premier rapport qui a été remis par des scientifiques au sujet du réchauffement climatique, c'était il y a 50 ans. 50 ans, c'était des climatologues américains qui ont envoyé un rapport au président américain de l'époque. Et le fameux rapport dans les années 70, du Club de Rome, le rapport Meadows. Donc toutes ces alertes, finalement, n'ont pas été prises en compte par la société civile. Et actuellement, on a effectivement les scientifiques qui sont de plus en plus inquiets, il faut vraiment que vous le sachiez, avec des mouvements de réflexion sur notre rôle dans la société qui sont de plus en plus importants. Et parfois, nos messages sont pas des bonnes nouvelles, comme vous le savez. Mais ça pose la question de la manière dont ils sont reçus. Alors moi, j'ai eu une expérience un petit peu particulière à ce sujet que j'aimerais partager, puisque avec un groupement de scientifiques, une dizaine de scientifiques, on s'est permis d'intervenir dans un forum Toulouse Zéro Carbone organisé par Toulouse Métropole, qui avait invité dans une table ronde Total Énergie. Et donc, si vous suivez un petit peu l'actualité, Total Énergie, en fait, a clairement dit qu'ils allaient continuer l'extraction de nouveaux gisements d'énergie fossile qui, quand on s'intéresse de près au climat, veut tout simplement dire qu'en fait Total Énergie a décidé de ne pas respecter l'accord de Paris et de ne pas faire sa part là-dessus. Donc on s'est permis d'intervenir et de projeter une quinzaine de slides et d'intervenir un quart d'heure avant d'aller nous rasseoir. Et le conseiller municipal par la suite a qualifié ça de méthode terroriste. Et l'adjoint au maire de Toulouse Métropole, c'est disponible sur YouTube, a qualifié ça d'exaction violente. Donc les mots ont un sens. Et le fait que les scientifiques soient actuellement très inquiets, que les scientifiques hausse un tout petit peu le ton face à l'inaction climatique. Voilà, il faut quand même raison garder et savoir que nous sommes payés par l'agent public pour essayer d'éclairer la décision publique et qu'on va essayer de faire de notre mieux face à ça, mais qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Je passe à la suite. Excusez-moi de l'émotion. Et on a eu à peu près le même problème avec, le transport aérien. C'est-à-dire que finalement, les résultats des scientifiques montrent qu'actuellement, on ne peut pas respecter l'accord de Paris sans une diminution du trafic. Voilà, c'est la science, c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes, etc. Dans une région, comme vous le savez, tournée sur l'aéronautique, finalement, tenir ce genre de discours, ça veut dire quoi ? Globalement, vous n'êtes plus invité. Quand vous dites ce genre de choses, vous n'êtes plus invité par la région. Et on va préférer inviter Airbus qui va tenir des discours extrêmement optimistes, mais complètement déconnectés de la science et de la réalité, de la réalité de la situation. Certes, les scientifiques ont de mauvaises nouvelles, mais on est prêt à travailler avec les politiques, à condition, bien entendu, que le message que nous portons soit entendu. Et donc, j'aimerais remercier les organisatrices, principalement, du coup, Colline et Fanny de cette table ronde où on voit la qualité des échanges et des intervenants qui ont eu lieu. Et donc, merci beaucoup de donner cet espace de parole aux scientifiques. Fin de la parenthèse. J'aimerais donc dire un petit mot sur le fait que la fin des énergies fossiles est le sujet face au réchauffement climatique, qu'on a vécu des millénaires sans énergie fossile, avec donc des civilisations qui ont prospéré plus ou moins, mais qui sont développées dans un climat qui était stable. On sait qu'on peut vivre sans énergie fossile, alors certes peut-être pas avec des smartphones dans notre poche pour tout le monde, etc. Mais on sait que c'est possible, et que probablement le bonheur est possible dans ces civilisations-là du passé. Par contre, vivre dans un monde à 3 degrés, ça, je tiens à vous le dire, on ne sait pas si c'est possible. Pour être en relation avec des climatologues, moi je ne suis pas climatologue, mais dans notre collectif on a des climatologues, les mauvaises nouvelles et les déconvenues des climatologues sont leur quotidien. C'est-à-dire que les vagues de chaleur qui ont eu lieu en l'été 2022, leur amplitude a surpris les spécialistes du climat. Ce n'était pas dans leur modèle. Donc ils se retrouvent avec un plus de degrés dans leur modèle où ils se disent « Tiens, ça vient d'où ? Quelles sont les erreurs qu'on a faites ?» Et ça, c'est régulier, c'est-à-dire que globalement, plus le temps avance, plus les climatologues s'aperçoivent que les modèles qu'ils utilisent sont globalement plutôt trop optimistes. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Et bien entendu, les climatologues et les scientifiques font leur maximum pour essayer d'anticiper ce que pourrait être un monde à 2 degrés, à 3 degrés, etc. Quels arbres il faut planter, quels vont être le débit des cours d'eau, etc. Mais il faut que vous sachiez, évidemment, qu'il y a une énorme part d'incertitude là-dessus. On peut pas tout prévoir, tout prédire, tout rentrer dans les modèles et anticiper une situation qui ne s'est jamais produite par le passé, puisque, par définition, la science, en fait, on reproduit des expériences, et une fois qu'on les a reproduites, on les a comprises. Là, on est en train de vivre une expérience qu'on ne vivra qu'une fois. Donc, on peut pas la prédire. Ça, il faut le savoir. Du coup, ce dont j'aimerais vous parler, c'est des énergies. Alors, je vais essayer de le faire. Alors, en France, surtout, vous savez, le débat autour des énergies, des sources d'énergie est extrêmement polarisé. Vous avez des groupements politiques qui sont absolument contre les éoliennes, des gens qui sont pour le nucléaire, des gens qui sont contre le nucléaire, etc., etc. Et tout ça est extrêmement compliqué. Et vous avez des gens qui arrivent avec leurs solutions parce que ils travaillent dans tel domaine, donc ils vont vous dire « Ouais, voilà, ça c'est la biomasse, c'est important, oui, mais le photovoltaïque, c'est important, voilà. » Donc je vais essayer de vous faire la présentation que j'espère la plus objective possible, issue de mes nombreuses soirées à lire des choses sur les différentes manières de produire les énergies, en essayant de le faire de la manière la plus claire possible. Donc on va commencer par tout ce qui permet de produire de l'électricité. Donc je vais commencer par les avantages et puis après on parlera des inconvénients. Donc l'éolien, qui clairement est une énergie qui a de très faibles émissions de CO2. Parmi les ENR, c'est celle qui a les plus faibles émissions de CO2. Et elle a en commun finalement avec le photovoltaïque un certain nombre d'inconvénients que vous connaissez. C'est une énergie qui est relativement diluée et donc qui nécessite l'installation sur le territoire de nombreuses infrastructures. On en a parlé, je vous ai donné quelques chiffres tout à l'heure. Ce sont aussi des technologies qui sont intensives en matériaux. On a besoin de beaucoup de matériaux puisque ce sont des énergies qui sont diluées sur le territoire. Donc il faut construire beaucoup d'aluminium, beaucoup de carbone, beaucoup de béton pour les éoliennes, etc., etc. Donc, dans un monde où les ressources, c'est cher, ça vient de loin, parfois, ou ou pas, mais ça pose des soucis en termes de matériaux. Et puis évidemment, il y a l'intermittence. Donc là, il y a des débats. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Bien que je m'intéresse beaucoup au sujet, c'est encore trop technique pour moi. Mais est-ce que vraiment l'intermittence va être un gros problème ou pas un gros problème? Le débat est encore ouvert. Mais en tout cas, a priori, il y a quand même des solutions technologiques qui sont mises sur la table. Peut-être qu'on pourra avoir quelques coupures d'électricité, je ne sais pas. Après tout, c'est peut-être pas forcément un drame. Le photovoltaïque, l'intérêt que j'y vois, c'est donc bon. Déjà, il a des émissions un peu supérieures à l'éolien. Il me paraît très adapté à des projets locaux citoyens. C'est-à-dire que si vous avez sur votre territoire des gens qui viennent vous voir, des projets collectifs, des gens un peu des hippies, tout ça qui viennent vous voir, venez, on va s'installer sur votre territoire, on va faire de l'agroécologie, on va installer des panneaux photovoltaïques et tout ça. Accueillez les bras ouverts, parce que en fait, gérer sa propre source d'énergie, c'est le meilleur moyen de se rendre compte de ce que ça représente, des surfaces qu'il faut. Et tous les gens qui font de l'autoconsommation, en fait, décroissent leur consommation. Parce que ils se rendent compte que ah oui mon portable c'est ça c'est ceci, alors que quand l'énergie est loin, qu'on la paye pas, qu'elle est pas installée, en fait on s'en rend pas compte. Donc je vous encourage, si vous avez la possibilité en tant qu'élu, accueillez les projets citoyens d'autoconsommation, les bras ouverts, et effectivement le photovoltaïque est bien adapté, beaucoup plus que à l'éolien. Et il faut noter aussi que le coût du photovoltaïque est en très très forte baisse, hein, de toutes les énergies, c'est celle dont le coût financier décroît, parce que on est dans le domaine de la microélectronique et ça rejoint un petit peu les progrès qui sont faits en matière d'informatique un petit peu, hein, pour faire court. Ensuite, on a l'hydroélectrique. Alors l'hydroélectrique, c'est historiquement quand même la première source d'énergie qui a permis de produire de l'électricité en France. Globalement, elle a quand même relativement peu d'inconvénients. Elle a un énorme avantage, c'est qu'elle nous permet d'avoir une dépendance énergétique. Hein, tout est produit sur notre territoire. Des émissions qui sont relativement faibles aussi. Elle a un très gros avantage, c'est qu'elle permet de stocker l'énergie, hein, c'est-à-dire de pallier, d'être complémentaire des énergies intermittentes. Donc ça, c'est vraiment super. Mais la mauvaise nouvelle, hein, et on commence déjà à le voir en Europe, puisque la Norvège a déjà eu des problèmes cet été à ce sujet, c'est sa sensibilité au dérèglement climatique. Et cela a été mentionné par les autres intervenants, éventuellement les conflits d'usage qu'il peut y avoir entre la production d'électricité et l'étiage. Et puis l'autre inconvénient, c'est qu'on est déjà proche de la saturation. On peut effectivement installer un peu plus d'hydroélectricité sur les territoires, mais pas énormément plus. Donc je dirais, et c'est peut-être un message, c'est que si notre consommation d'électricité était vraiment très faible, l'hydroélectrique, franchement, c'est super. Et puis il y a le nucléaire, donc on va pas se lancer dans un débat sur le nucléaire, mais vous savez, c'est une énergie à très faible émission de CO2, relativement économe en matériaux, hein, par rapport à tout ce qui est ENR, mais avec des problématiques au niveau du coût, hein, des nouvelles générations éventuellement qu'il faudrait mettre en place, des temps de déploiement. Là, on est en train de parler d'urgence climatique, donc l'urgence c'est maintenant, et le temps de déploiement du nucléaire est pas forcément toujours compatible avec ça. Les ressources en uranium, donc le nucléaire peut-être en France, où c'est une solution ou pas, c'est pas ce dont je veux parler aujourd'hui, mais de toute façon à l'échelle mondiale ça peut pas passer, pour à la fois des raisons géopolitiques et de ressources, et puis les fameux risques. Deuxième transparence sur les choses qui ne produisent pas forcément d'électricité. Alors la biomasse. L'avantage de la biomasse, c'est très clairement là aussi l'indépendance énergétique, c'est-à-dire que ce sont des sources d'énergie qui peuvent être produites sur notre territoire, et je dirais une certaine simplicité technologique, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de l'industrie mondiale du semi-conducteur pour faire de la biomasse. Néanmoins, l'utilisation de la biomasse pose un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est probablement la compétition avec d'autres usages, et notamment agricoles. C'est-à-dire que dans une société qui utilise beaucoup de son espace pour produire de l'alimentation, que ce soit directement pour les humains ou pour les animaux, ça pose des problèmes de compétition d'usage. Et éventuellement, si on se dit « bon, mais moi, je vais produire la biomasse sur mon territoire », et ça a été mentionné par quelqu'un, ça nécessite d'importer des denrées agricoles qui proviennent d'autres pays, et donc de faire ce qu'on appelle de la déforestation induite, principalement en Amazonie. Donc si on réfléchit à l'échelle mondial, global, c'est pas forcément super. Et évidemment, une certaine sensibilité au dérèglement climatique. On commence à avoir des baisses de rendement agricole en Europe dues au dérèglement climatique. Donc, compter sur la biomasse, c'est aussi un risque. La méthanisation, il y a juste un point sur lequel j'aimerais prêter attention, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne un soutien financier au maintien de l'élevage bovin. J'insiste bien bovin. Donc je ne vais pas lancer le débat aujourd'hui parce qu'il faudrait qu'on en discute avec mes collègues, mais il faut que vous sachiez qu'en dépit de tout ce qu'on raconte sur le stockage carbone, etc., des prairies, c'est très clair, globalement, si vous avez sur le long terme des vaches sur des prairies, ça émet du méthane et ça participe, vous le savez, grandement au réchauffement climatique. Juste pour le rappeler, le steak de bœuf, c'est 10 fois plus d'émissions que le rôti de porc, qui est lui-même 10 fois plus d'émissions que le soja. Donc les vaches, c'est une des grosses sources d'émissions de l'alimentation. Voilà. Donc ça pose des questions au niveau de l'évolution de l'élevage. Peut-être qu'il y a d'autres solutions pour avoir de l'élevage sur des coteaux. On pourra peut-être en discuter. Peut-être des porcs dans des forêts, hein, comme ça se faisait avant. L'élevage porcin, c'est 10 fois moins d'émissions que le méthane. Donc pourquoi pas sur les coteaux avoir des forêts avec des sangliers ou du porc noir de Bigorre à l'intérieur. Bref, on pourra en discuter. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi concernant la biomasse et la méthanisation, c'est que c'est de toute façon toujours limité par la photosynthèse. Et la photosynthèse, avant la révolution industrielle, on a vécu pendant des millénaires dessus. Donc le message sur la biomasse et la méthanisation, peut-être, un peu, mais de toute façon, le potentiel est réduit par rapport à nos consommations actuelles. À l'échelle mondiale, il y a de fortes incertitudes, mais on estime que c'est de l'ordre de 10%, pas plus. Et encore, ça pose toujours les questions d'être sûr, de ne pas surexploiter, de ne pas déforester à un moment donné en se disant que ça va repousser, mais ça ne va pas repousser. Donc ça pose quand même, c'est extrêmement touchy, la biomasse. Ensuite, on a les méthodes de production de chaleur directement. Alors là, on ne peut pas produire d'électricité, etc., mais on peut produire de la chaleur. Donc le solaire thermique, pour lequel je n'ai pas forcément identifié d'inconvénients majeurs. Donc, je vous invite éventuellement, quand c'est possible, à les encourager hein, sur vos territoires ou sur les bâtiments dont vous êtes responsable. Ça nécessite par contre, évidemment, de faire des travaux, donc ce n'est pas toujours possible, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais franchement, pour la production d'eau chaude, allons-y hein, sur le solaire thermique, je pense qu'il n'y a pas partout où c'est possible, faisons-le. Et puis il y a la dernière question, celle de la géothermie, qui permet de la production de chaleur. Alors il y a des débats parmi les scientifiques, j'en ai discuté pas plus tard qu'hier avec un spécialiste de la géothermie toulousain, là, Olivier Van der Hage. On a discuté un peu géothermie. Il y a des gens qui utilisent la géothermie pour produire de l'électricité. Alors principalement en Islande ou dans des zones volcaniques. Ça pose quand même des soucis à la fois techniques, peut-être de risques, etc. Donc là, tout ça, c'est pas très clair pour la production d'électricité. Mais pour la production de chaleur, c'est-à-dire des îles, des collectifs ou des choses comme ça, a priori, on a discuté. Il n'y a pas vraiment de grosses problématiques derrière ce qu'on appelle la géothermie de surface ou la géothermie peu profonde. Donc là aussi, c'est des choses qui n'ont pas été forcément beaucoup encouragées par les pouvoirs publics dans les dernières années, mais sur lesquelles très probablement il faut se pencher d'un peu plus près et y a probablement des possibilités de développement de la géothermie sur les territoires qui peuvent être intéressantes. Voilà, j'ai essayé de faire à la fois court. Mais d'essayer de rentrer le plus possible quand même dans des détails techniques et des choses qui sont compliquées, les avantages, les inconvénients. J'espère que voilà, ça peut faire une base pour la discussion. Et je vous remercie de votre attention.
Bonjour Pierre Crayé, maire de Salles. Ce qui me gêne un peu dans le diapo, c'est que, enfin ce qui me gêne, c'est pas ce qui me gêne, mais excusez-moi, c'est il me manque toujours le complément, c'est en fait du traitement derrière. Pour les panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent? Dans quelle proportion ils sont recyclables ou pas? Je sais que ça augmente, mais ça reste quand même une source aussi de déchets. Et alors, il n'y a jamais ça. Ça n'apparaît jamais nulle part, mais pas que sur votre diaporama. Hein. Il n'y a rien de personnel du tout là-dessus. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment on pourrait aussi imaginer un système de récupération d'énergie des zones artisanales ou industrielles pour des complexes municipaux ou autres?
Pour la première question, vous avez entièrement raison et vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle nous scientifiques, ce qu'on appelle le réductionnisme climatique. C'est-à-dire qu'en fait, on va, vu l'urgence climatique, on va essayer de regarder l'ensemble des technologies avec un seul critère, qui est les émissions de CO2. Voilà. On sait qu'en fait, ça facilite les choses, ça permet de parler d'énergie en un quart d'heure, comme je l'ai fait aujourd'hui, sans rentrer dans trop de détails. Mais on sait que, en fait, pour chaque technologie, derrière, il y a d'autres aspects à prendre en compte. Hein. J'ai parlé des conflits d'usage, des surfaces, et éventuellement d'autres problématiques comme les risques technologiques, les risques sismiques de la géothermie, etc. Et vous l'avez signalé, les problématiques de recyclage et plus généralement de pollution des eaux, de pollution des airs, etc. Ça pose aussi des problèmes géopolitiques, d'indépendance énergétique. J'ai essayé d'en parler un petit peu dans les transparents. Il y a des choses pour lesquelles on va être dépendant de l'industrie mondialisée. Par exemple, la production de photovoltaïque, mais on peut avoir des choses qui peuvent être, au contraire, qui peuvent être développées en France. Et ça pose aussi la question de la dépendance avec des ressources minérales. Vous avez entièrement raison de pointer cette problématique du recyclage, mais en fait, ça nécessite de passer quand même plusieurs heures à discuter de chacune des technologies. Actuellement, les panneaux photovoltaïques, l'industrie de recyclage démarre. Parce qu'on commence à arriver, pour la première fois en fait, à une première pique de fin de vie des premiers panneaux photovoltaïques qui ont été installés dans les années 80-90, pour lesquels il y avait des premières incitations du gouvernement. Donc jusqu'à présent, il n'y en avait pas, donc il n'y avait pas de filière. Donc qui dit pas de filière dit, bon, les gens travaillent dans leur labo éventuellement pour réfléchir, ou des industriels se préparent, mais ça, forcément, s'il n'y a pas de filière, on ne recycle pas. Donc là, a priori, du peu que j'en sais, ça commence. Ça pose aussi la question pour les éoliennes, puisqu'on se retrouve avec des éoliennes qui, et là on peut l'anticiper parce que les éoliennes c'est beaucoup plus récent, avec des éoliennes qui ne peuvent pas être recyclées. Certains matériaux, par exemple les pales en fibre de carbone, ne peuvent pas être recyclées facilement. Donc ça va finir très probablement, les premières générations d'éoliennes vont finir incinérées. Pas incinérées justement, elles vont être enfouies. Donc voilà, donc ça c'est un gros problème, voilà. Mais évidemment, chaque source d'énergie dont j'ai parlé, on peut en discuter pendant trois quarts d'heure en évoquant tous ces aspects-là. Vous pouvez me rappeler la deuxième question ? Ouais, alors là on rentre dans des choses qui sont je ferai la même réponse que mon collègue tout à l'heure. Faut regarder au cas par cas parce que en fait, quand vous avez une source d'énergie de déchets. En fait, la récupérer va vous demander généralement une installation industrielle, une source d'énergie additionnelle. Et au final, est-ce que vous y gagnez à la fois du point de vue purement énergétique ou climatique, mais également du point de vue financier? En fait, il n'y a pas de réponse, je dirais, il n'y a pas de réponse toute faite. Je ne peux pas répondre si on n'est pas en train de regarder très précisément de quelle industrie on est en train de parler, quelle est la source d'énergie, quels sont les kilowattheures, qu'est-ce qui est disponible, etc. Donc tout ça, c'est du travail pour, je veux dire, nos ingénieurs, conformes. Par exemple, à l'INSA, vous avez beaucoup de nos étudiants qui sont en quête très clairement de sens dans leurs études et qui ont envie de se dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie d'aller bosser dans le spatial ou l'aéronautique, j'ai envie d'aller œuvrer à la transition sur les territoires. Et on leur dit, ouais, il y a beaucoup à faire. Et donc, j'ai envie de dire, si vous avez des projets concrets comme ça, c'est-à-dire des interrogations sur vos territoires, contactez-nous. On n'est pas juste des scientifiques dans les labos, on est aussi enseignants dans des écoles d'ingénieurs. On a plein de projets qu'on souhaite soumettre à nos étudiants. Et il n'y a pas de meilleur projet que de leur dire, regardez, il y a un élu ou une élue qui nous a contactés, il se pose des questions sur tel aménagement. Proposez-nous des choses et vous allez voir, on va vous former des petits groupes d'étudiants qui vont réfléchir à ces questions-là.
Michel Zdan, maire de Grazac. Moi, vos propos, je les trouve un peu déstabilisants parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous partez quand même sur une analyse très globale, un petit peu mondiale d'ailleurs. Il faudrait pas qu'on interprète justement quand vous évoquez que la biomasse ou la méthanisation présenterait peut-être que 10% des possibilités de recours, alors que nous, on est quand même sur des territoires montagneux, très boisé, très très boisé. Ma commune, c'est 40% de forêt, très accidenté. Et donc, l'entretien justement de ces territoires, au niveau de tout ce qui est les massifs forestiers, la biomasse, elle est là. Et elle n'intéresse pas les agriculteurs, parce qu'en fait, c'est trop accidenté. Et preuve, j'ai déjà beaucoup de mal à trouver des exploitants forestiers qui viennent couper
Pourtant, mais c'est l'ONF qui gère les forêts de ma commune. Et donc, tout ça fait que je crois que ces 10%, il faut quand même aller les chercher. Parce que nous, on est sur un territoire où ça représente sûrement plus de 10%, en réalité, pour nous, pour notre territoire. Et je crois que, bon, dire on est toujours dans des cas très spécifiques, oui, chaque fois. Et quant à la méthanisation, sur nos territoires, c'est toujours pareil. On a quand même beaucoup de stations d'épuration qui pourraient fonctionner, faire marcher de la méthanisation. Mais aussi, la méthanisation peut concourir, il me semble, au maintien, justement, de haies au niveau de tout ce qui est l'urbanisation. Parce que je le vois sur la communauté de communes dont j'appartiens, la Bassin Haute-Rivain, c'est quand même, je veux pas dire de bêtises, il me semble que c'était 4000 tonnes de déchets verts sur 19 petites communes. Donc, tout ça, ça peut alimenter. Il faut pas que ça vienne en concurrence. Il faut pas que ça... en fait, voilà, il faut savoir faire le tri et comment on fait fonctionner, en fait... des installations derrière qui viennent abonder dans le bon sens par rapport à ce qu'on recherche au niveau environnemental.
Je vous remercie vraiment beaucoup pour cette question qui me permet de clarifier plusieurs choses. La première, c'est que finalement, et je l'ai pas dit en conclusion de mon exposé, c'est que évidemment le message principal des scientifiques, et maintenant ça commence à être intégré par les pouvoirs publics, c'est que l'énergie la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et que donc très clairement, le message, si vous avez la possibilité, et c'est peut-être pas forcément la bonne échelle pour ça, mais de faciliter tout ce qui va être la sobriété énergétique sur vos territoires, faciliter les transports en commun, éventuellement les rendre gratuits pour que les gens puissent se passer de leur voiture et pourtant se déplacer, etc. Faites le maximum pour diminuer la consommation énergétique sur notre territoire. Parce que dès qu'on va diminuer la consommation énergétique du territoire globalement, ça veut dire qu'on va pouvoir aller, pour toutes les technologies dont j'ai parlé là, uniquement installer ce qui est le plus vertueux et le plus pertinent. Et effectivement, dans des zones montagneuses, forestières, aller chercher du bois mort, mais évidemment, je veux dire, évidemment. Mais là où par contre, il faut faire attention, c'est précisément sur les dérapages dont on a commencé à parler à certains moments, où vous allez inciter dans des endroits où ça ne fait pas sens et pour des raisons purement financières, l'installation de cultures, par exemple, qui vont être brûlées. Par exemple, en Allemagne, il faut savoir, on le sait, hein, qu'il y a à un moment donné des cultures de maïs qui poussaient et qui allaient directement dans un méthaniseur. Ça n'a pas de sens. Et après, en France, ça a été, ils ont limité l'apport. Et ce que je disais sur la méthanisation, là aussi, et pour être bien sûr d'être bien compris, je dis bien que la méthanisation ne doit pas être une incitation financière pour qu'on utilise les bouses de vache. Mais par contre, éventuellement, les déchets végétaux ou dans certains cas, les déchets ménagers, évidemment. Donc ce que je veux dire, c'est pas dire cette technologie-là, il faut l'utiliser ou il faut pas l'utiliser. Il y a des cas où c'est vertueux, il y a des cas où c'est pas vertueux. Et vous êtes probablement les personnes ici les mieux placées pour savoir si sur votre territoire, une source de production d'énergie est pertinente ou pas. C'est vous les acteurs de la transition, vraiment, en ce qui concerne la production d'énergie, parce que c'est vous qui allez pouvoir dire « Oui, ben moi j'ai du bois, évidemment qu'il va falloir que j'utilise ce bois mort pour que les gens, en plus, à proximité, dans mon village ou juste en bas de la vallée, puissent se chauffer. Et moi j'ai un poêle à bois, je suis extrêmement content qu'il y ait du bois qui vienne des Pyrénées, qui puisse alimenter mon poêle à bois. Et je fais attention d'où il vient, etc. » Donc évidemment, dans certains cas, c'est pertinent. Il faut juste faire attention aux dérives et vous êtes les mieux placés pour le faire.
Oui, bonjour. Daniel Barédé, maire de Beaufort. Vous n'avez pas évoqué l'hydrogène comme source d'énergie. Pourquoi ?
C'est tout à fait normal. Merci d'avoir posé la question. J'avais dit à mes collègues quand j'ai préparé le transparent, je vous montre les transparents. Je leur avais dit, quelqu'un va me poser la question sur l'hydrogène et je répondrai ce que je vais vous répondre. L'hydrogène n'est pas une source d'énergie. L'hydrogène est, comme l'électricité, un moyen de transformer un vecteur pour qui permet de transformer une source d'énergie en une autre, etc. Mais ce n'est pas une source d'énergie. La source d'énergie derrière l'hydrogène, c'est l'électricité, pour ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez produire de l'hydrogène, il faut produire de l'électricité. Donc tous les gens qui vous disent on va faire voler des avions à l'hydrogène, ce sont des gens qui vous disent on va faire voler des avions avec de l'électricité pour produire de l'hydrogène qui après sera intégré. Donc c'est pour ça que moi j'ai parlé que de production d'électricité. Et donc pour rappeler quand même un petit chiffrage qu'on avait fait avec mes collègues de la Técopole sur le transport aérien lorsque Airbus avait sorti sa grande communication il y a 2 ans sur l'avion vert, l'avion hydrogène, blablabla. On s'était amusé à juste chiffrer ce que ça voulait dire en termes d'électricité d'alimenter Charles de Gaulle en hydrogène. 16 réacteurs nucléaires pour alimenter Charles de Gaulle en électricité. Et on a fait le même calcul pour Blagnac. Je vous en ai donné quelques exemples tout à l'heure. C'est un petit aéroport, donc c'est pas les mêmes chiffres. Mais tout ça pour vous dire que quand on vous dit on va faire ceci à l'hydrogène, transformez dans votre tête, ok, il va falloir produire beaucoup plus d'électricité. Et si vous faites la somme de tout ce que les différentes entreprises ou différents acteurs disent sur l'hydrogène, c'est-à-dire, si on parle des activités indispensables, vous avez les camions, enfin indispensables, sur lesquels on n'a pas trop le choix autre que l'hydrogène, les avions, les camions, l'industrie sidérurgique, les engrais, voilà, ça fait déjà 4, ben, ça fait des productions d'électricité qui sont juste énormes. Et vous voyez que là, on a déjà cet hiver des problèmes de production d'électricité en France. Si on rajoute les voitures électriques, l'hydrogène, les avions, les camions, etc., on a des consommations d'électricité qui vont juste être gigantesques. Donc, encore une fois, sans sobriété, ça ne passe pas, pour reprendre une citation de Jean Jouzel.
Donc, moi, je voulais poser la question suivante. Alors, je suis Patricia Cavalieri-Doron, conseillère municipale à Outrive. Et je voulais savoir un peu à quoi correspondait, en termes d'électricité, puisque vous avez chiffré pour les avions, les voitures électriques, le parc de voitures électriques.
Ben, j'ai fait le calcul pour l'Occitanie, hein, c'est les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Le calcul, c'était, je dis bien, sans sobriété, c'est-à-dire on prend toutes les voitures thermiques aujourd'hui d'Occitanie, on les transforme toutes en voitures électriques et on garde le kilométrage actuel, hein. Donc ça, juste pour la voiture électrique, j'ai chiffré 150 km² de panneaux photovoltaïques. Ça, c'est pour l'ensemble du parc. Si vous rajoutez les camions qui circulent actuellement en Occitanie, à la louche, il faut rajouter 25% à ce que je viens de vous dire. Et si vous rajoutez Blagnac, il faut à peu près 50 km² pour Blagnac. Donc on arrive pour l'Occitanie à 240 km² de panneaux photovoltaïques. Alors, en tant qu'élu sur les territoires, vous parlez peut-être plus souvent en hectares, donc allez, 24 000 hectares de panneaux photovoltaïques ou 84 000 hectares d'éoliennes ou 3 réacteurs nucléaires. Donc c'est ce genre de calculs qui sont... C'est pas compliqué à faire, hein, c'est de la règle de 3, mais il nous semble, et je reprendrai Jean-Marc Jancovici, hein, qui avait encore fait une intervention à l'Assemblée nationale sur la thématique de l'énergie, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait. Franchement, c'est très bonne facture. La règle de 3 permet d'éclairer le débat public. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Franchement, donner des chiffres, ça permet de que vous rendiez compte de quoi on est en train de parler lorsqu'on parle de transition énergétique.
Bonjour, Nadia Estan. Donc, je suis vice-présidente du pays sud-toulousain chargée du plan climat et la mobilité. Et ma question, c'est que bon, nous, évidemment, à travers le plan climat, la première approche, vous avez raison, c'est commencer par réduire notre consommation avant de penser à la produire. Cependant, il faudra quand même la produire. Ma question, est-ce que finalement, la réponse ne serait pas dans déjà un mix énergétique, mais qui est aussi réfléchi au plus proche de la consommation énergétique? Ça veut dire que le fait de finalement que notre plan, notre SCOT, intègre dedans aussi la production d'énergie et la consommation d'énergie, de telle façon, alors je vais utiliser un mot barbare, hein, de faire des hubs énergétiques, ça veut dire avoir une production globale et une consommation globale, et pour cela, avoir une réflexion, effectivement, qui nous permet de ne pas faire des pertes en ligne, de pas faire. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé là, qui pourraient, en réalité, être une solution beaucoup plus efficiente, et donc avoir une solution beaucoup plus intelligente, entre guillemets, pour avoir, finalement, après la réno, qui est obligatoire, après l'économie, la rationalisation de l'énergie, ben, une production qui soit au plus proche de la consommation.
Réponse courte, je pense qu'il y a deux modèles qui sont très très différents. Si vous voulez, tout à l'heure j'ai parlé des hippies avec leurs panneaux photovoltaïques à côté de la yourte, j'en connais, c'est un modèle. C'est-à-dire que là, on a la consommation qui est proche de la production, une petite batterie, etc. Bon, très bien. Le problème, c'est que après, si on sort de ce modèle-là, de suite, lorsqu'on a des énergies intermittentes, panneaux photovoltaïques, éoliennes, et je dis bien qu'on reste dans le dogme actuel qui est « il nous faut de l'électricité en abondance quand on veut », c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité liée au fait qu'on développe des ENR, ça veut forcément dire que vous devez avoir un système énergétique globalisé à l'échelle de l'Europe. On est dans deux manières de voir à la fois le monde, la technologie, nos modes de vie qui n'ont rien à voir. Et donc, est-ce qu'il y a un juste milieu entre les deux, c'est-à-dire de la production à l'échelle de l'Occitanie, etc. Je sais pas. Mais en tout cas, par contre, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit au tout début de votre intervention. Très clairement, la production énergétique doit être intégrée dans les schémas politiques et réfléchie de manière, en prenant en compte tous les enjeux dont on a parlé ce matin. Je pense que la discussion était extrêmement riche ce matin à ce sujet. Et notamment si on croit à ce fameux slogan de la région énergie positive, c'est-à-dire on est capable, en théorie, de produire notre énergie sur notre territoire. Et là, très clairement, j'ai tenté de vous montrer que, à part si on installe plusieurs réacteurs nucléaires en Occitanie, si on veut faire autrement que ça, ça nécessite des surfaces, ça nécessite de l'aménagement du territoire et ça nécessite de réfléchir de manière très lucide sur ces choses-là.
Dernière question.
C'est pas une question. Et je me garderai bien, moi, de réagir sur l'énergie, sur un plan professionnel. Non, je reviens quand même sur un sujet où on a échangé sur l'élevage. Personne n'a posé la question de l'élevage. Et je reviens sur la question territoriale. Parce que moi, je partage effectivement, il y a même sur le plan de la santé, on dit il faut manger moins de viande sur un plan de santé, on est d'accord. Réduire l'élevage, je pense qu'au niveau mondial, on est d'accord. Il y a des modes de production où, en plus, on en a parlé tout à l'heure, ça déforeste, ça a d'autres problèmes. Mais sur le territoire dont vous êtes, et de façon plus générale, sur le bassin Indo-Garonne, ce qu'on souhaite, nous, c'est garder de l'élevage. L'élevage hors sol, oui, ça pose des problèmes et pour l'environnement et pour la qualité même, on va dire, de la viande. Mais nous sommes aujourd'hui, nous, sur des élevages qui sont dans la grande majorité, là encore, on trouvera toujours et on en a sur le territoire de gros élevages, mais dans la très grande majorité, nous avons des élevages qui sont extensifs, herbagés. Mon territoire, moi, de ma délégation, il y a la Lozère, le Cantal, l'Aveyron, tous ces territoires-là. Et donc, pour moi, le sujet est de garder sur nos territoires ces élevages qui sont plutôt extensifs et de qualité.